Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bienvenue sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Nous sommes toujours là pour vous faire vivre cette deuxième journée de la cinquième édition du salon CIPCA, le salon bas carbone, ici depuis le 8e arrondissement au Grand Palais, où nous recevons évidemment de nombreux invités depuis 9h30 ce matin, et ça va continuer comme ça jusqu'à 18h cet après-midi. L'ensemble des émissions, comme la table ronde que vous venez d'entendre, est évidemment disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Vous pouvez aller regarder et même télécharger si vous le souhaitez. Nouvel invité qui vient de me rejoindre, Rémi Mabu. Bonjour.
Bonjour.
Rémi, vous êtes chef de projet logement et bâtiment au Shift Project. Merci d'être présent. Le logement qui doit accélérer la décarbonation sans aggraver pour autant la crise de l'offre ni exclure les ménages modestes, évidemment. Le Shift Project insiste sur la rénovation performante, la sortie progressive des énergies fossiles et la stabilité des politiques publiques. C'est un petit peu, j'ai bien résumé ?
Oui, à grand trait, on y est, ouais, effectivement.
C'est quoi clairement l'objectif de Shift Project ?
Alors le Shift Project, c'est un think tank, donc un cercle de réflexion qui existe maintenant depuis une bonne quinzaine d'années et dont l'objectif est la décarbonation de l'économie. On est soutenu par, financé par les donations d'entreprises, okay. Des grandes entreprises à l'origine, mais aussi aujourd'hui beaucoup de petites et moyennes entreprises qui en fait adhèrent à nos principes et qui contribuent aussi à l'établissement de nos propositions. Et donc on a maintenant une trentaine de, plusieurs dizaines en tout cas de salariés qui travaillent sur ces sujets et qui font travailler ce réseau d'entreprises pour aboutir à des propositions qui soient économiquement cohérentes, même si nous on prend vraiment les problèmes par la physique, par les tonnes de CO2, les kilowattheures d'énergie consommée, etc. Et donc on a cette logique de chiffrage pour aboutir à une transition, à un plan de transition, on va dire, qui soit cohérent en termes de rythme avec ce qui est exigé par les accords de Paris.
Et qui tienne dans le temps.
Voilà. Donc là, typiquement, on a sorti un dernier rapport cette année en avril ou en mai, qu'on a appelé plan robuste pour l'économie française, qui fait suite à notre plan de transition pour l'économie française qu'on avait sorti en 2021. Et donc ce plan robuste, il a l'objectif de plutôt d'avoir une approche un petit peu plus diachronique, un petit peu plus de regarder dans le temps entre aujourd'hui et 2050. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a certains chantiers de la transition qu'on rate, en fait, qu'on n'arrive pas à mener à l'échelle comme le voudrait par exemple la stratégie nationale bas carbone ou notre plan. Et est-ce que le fait de rater ces chantiers va impliquer des surcharges sur d'autres chantiers ? Est-ce qu'on a des marges de manœuvre qu'on peut absorber ? Par exemple, hein, je vais prendre un exemple. Donc, on a identifié une vingtaine de chantiers prioritaires. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il y a que ceux-là, etc. Évidemment. Mais on s'est dit, voilà, ceux-là, ils sont vraiment dimensionnants.
Alors, parmi les prioritaires ?
Donc, parmi les prioritaires sur le logement, typiquement, on a la rénovation énergétique des logements et le déploiement massif des pompes à chaleur.
Ok.
Mais on a aussi d'autres chantiers qui sont autour de la mobilité, donc la mobilité courte distance, la mobilité longue distance, le fret, sur le déploiement des énergies renouvelables, sur le déploiement de l'énergie nucléaire, etc. On a une vingtaine de ces chantiers-là. En tout cas, on sait que ceux-là, on ne peut pas y couper.
Ouais.
Et après, évidemment, il y a énormément d'autres choses à faire, mais en tout cas, on a pris ceux-là comme étant vraiment très dimensionnés.
Mmh.
Et donc, par exemple, sur la rénovation des logements, on a testé plusieurs scénarios. En se disant, un scénario maximaliste qui réussit vraiment à rénover à des niveaux BBC quasiment la totalité du parc, ce serait super et ça nous ferait une faible consommation d'énergie, ce qui permet d'avoir de l'énergie bas carbone disponible à la fin pour tout le monde.
Ouais.
Mais si on n'y arrive pas, si on n'y arrive qu'à moitié, ou voire même pas du tout, entre guillemets, en continuant à des rythmes qui sont les rythmes actuels, quel risque ça fait peser sur notre capacité à fournir de l'énergie bas carbone, donc du gaz, du biogaz à tout le monde qui en a besoin, ou de l'électricité, et que cette électricité soit décarbonée. Et donc il y a eu des interactions comme ça entre les chantiers et entre les différents experts.
Et donc vous réfléchissez aussi sur la volonté politique qu'il faudrait avoir, parce que malgré tout, c'est bien d'avoir des bonnes intentions, mais parfois c'est pas forcément hyper réaliste.
Alors on réfléchit en tout cas sur les mesures qui nous paraissent nécessaires de prendre pour faire advenir en fait ces trajectoires-là. Et après, effectivement, vous vous doutez bien que la date à laquelle on sort en fait ce plan-là, à peu près un an en avance par rapport au présidentiel. Ouais. C'est aussi pour donner,
évidemment, pour
toucher, alimenter en fait effectivement les rédacteurs de programmes, etc., au sein des partis. Et qu'eux s'en saisissent. Ouais. Et, en fait,
et vous avez l'impression qu'ils se sensibilisent vraiment et qu'ils s'accaparent aussi ces sujets-là. Normalement, ça devrait être évident. Mais...
Alors, avec plus ou moins de zèle selon les partis, on va dire.
Ouais.
Mais voilà, on est encore dans une phase, hein, où les programmes n'ont pas fini d'être rédigés. Mmh. Mais en tout cas, on essaye, oui, qu'ils s'en saisissent. Mmh. Et on essaye de leur pousser les bonnes idées, sachant que derrière, typiquement, selon qu'on soit de droite ou de gauche, on ne va pas forcément... essayer d'arriver au même résultat physique par des mesures similaires. Il y en a qui vont plus peser sur les entreprises, plus sur les ménages, etc.
D'accord, j'entends bien. La rénovation, elle reste souvent aujourd'hui hyper chère quand même pour les ménages. Qui doit prendre la plus grande part de l'effort finalement ? C'est l'État, les propriétaires, les banques ?
Y a un petit peu de tout ça. Alors du côté de l'État quand même, aujourd'hui, ça fait, je ne sais pas, peut-être 5 ans qu'on essaye de pousser à une augmentation des subventions qui sont en ligne avec les objectifs. Et quand même aujourd'hui, c'est assez difficile. Hein. Les budgets dédiés notamment à MaPrimeRénov ont été rabotés dans les ajustements des projets de loi de finances successifs ces dernières années. On a transféré globalement les budgets du budget de l'État vers les C2E, donc, qui sont récupérés, hein, auprès des entreprises productrices d'énergie qui vendent de l'énergie, mais qui du coup sont un peu hors budget d'État, donc c'est un peu particulier. Et donc aujourd'hui, il y a un peu, on a l'impression d'atteindre un petit peu une limite. Alors après, ça pourrait changer, hein, c'est une question de volonté politique et de où on met les moyens, etc. Mais en tout cas, dans le contexte actuel, c'est pas facile. En revanche, il y avait des mesures qui avaient été prises qui étaient plutôt intelligentes, qui n'étaient pas des mesures extra-budgétaires, réglementaires, via notamment l'interdiction de location de ce qu'on avait appelé les passoires énergétiques, donc les logements qui sont classés E, F et G du DPE, donc en commençant par les logements G, puis les F, puis les E, etc., jusqu'en 2034. Et ces mesures-là, elles ont l'intérêt de vraiment donner une valeur verte, en fait, ce qu'on appelle une valeur verte, et réciproquement une décote brune. Donc, c'est-à-dire que les logements qui sont bien classés selon l'étiquette DPE vont plutôt avoir tendance à se survaloriser, et ceux qui sont mal classés vont avoir tendance à se dévaloriser par rapport à une référence qui serait, disons, l'étiquette médiane, l'étiquette D. Et donc, on observe, les notaires aujourd'hui observent une décote ou une cote verte de l'ordre de 5% par saut d'étiquette. Et donc ça, c'est hyper intelligent parce que ça veut dire que si vous achetez un logement qui est mal classé, vous allez l'acheter moins cher, entre guillemets, que le prix du marché. Et ce budget supplémentaire, vous allez pouvoir le dédier à des travaux qui vont valoriser d'autant plus le logement que, non pas juste du montant des travaux, mais aussi de cette survalorisation liée au saut d'étiquette. Et donc ça va vous permettre de financer les travaux. Là où typiquement des fois en plus ces travaux peuvent engendrer des réductions de surface, et donc par exemple dans un foncier très cher comme à Paris, perdre 1 ou 2 mètres carrés parce qu'on a dû isoler par l'intérieur, ça se ressent.
Donc,
voilà, il y aurait peut-être des mesures complémentaires à prendre typiquement sur ce genre de situation, mais déjà cette mesure un peu simple qui ne coûte rien au budget de l'État, elle marche plutôt bien. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est plutôt en train de revenir dessus. Hein. Donc, c'est une mesure qui avait été prise par la loi Climat et Résilience en 2021. Et en fait, aujourd'hui, via des modifications successives du DPE, on en a beaucoup amenuisé la portée, via des mesures un peu techniques, hein, d'ajustement sur la façon dont on compte les consommations d'énergie sur les petites surfaces, via des ajustements sur le coefficient d'énergie primaire. Donc, c'est un coefficient un petit peu technique entre comment on compte notamment l'énergie consommée en termes d'électricité. Et en fait, finalement, on a beaucoup réduit la portée de ces mesures-là, ce qui est un peu dommage dans le sens où elles commençaient vraiment à produire des effets, notamment sur les prix de l'immobilier, et à être prises en compte, et aussi à se faire bouger les copropriétés, parce que ça marche très bien dans l'individuel, évidemment. Dans les copropriétés, c'est plus difficile parce que vous n'avez pas 100% la main.
Oui.
Mais néanmoins, ça oblige aussi les copropriétés à se bouger et à mieux prendre la problématique en cause. Du côté des copropriétés, par exemple, un peu le même genre de mesure qu'on pourrait, dans le même esprit qu'on pourrait avoir, ce serait de mettre un petit peu plus de pression sur la contribution au fonds travaux. C'est un fonds qui a été créé par la loi Allure, qui est progressivement abondé en fait par les copropriétaires dans le but d'amasser finalement suffisamment de manne financière,
de trésorerie,
de trésorerie, exactement, pour pouvoir mener les travaux d'entretien en temps et en heure. Et en fait, aujourd'hui, les contributions à son travaux, elles sont assez dérisoires. Elles sont parfois... alors, il y a un seuil minimal, mais sinon, elles sont indexées aussi sur les, ce qu'il y a dans les plans de, pluriannuels de travaux. Et en fait, aujourd'hui, le fait d'amasser ces contributions-là est trop lent par rapport à des trajectoires de décarbonation qu'on pourrait souhaiter. Donc, on pourrait mettre plus de pression là-dessus. On pourrait rendre des contributions obligatoires de manière plus drastique sur la base, par exemple, des étiquettes DPE, là où il n'y a pas de plan pluriannuel de travaux, etc.
Une autre question, parce que le temps passe malheureusement. Il y a un vrai sujet aussi autour des règles et des aides qui ont beaucoup changé, évolué avec des stop and go permanents. On l'a vu encore l'année passée, notamment avec MaPrimeRénov'. Est-ce que vous prenez qu'une décision soit prise et qui permette finalement quelque part de stabiliser aussi le secteur? Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet.
Ça, dans tous les entretiens qu'on a eus avec des structures du secteur, quand on a préparé ce plan, c'est vraiment ce qui est revenu tout le temps. On parle de rénovation, de pompe à chaleur, etc. Et qu'on parle à des entreprises, à des fabricants, donc des industriels, qu'on parle à des artisans et leur fédération, etc. En fait, stabilité, c'est vraiment le maître mot. Évidemment, il faudrait que ce soit stabilité quand même à des niveaux d'aide significatifs et pas à des niveaux dérisoires. Et parce que du coup, derrière, il y a quand même plusieurs choses que la filière doit faire un petit peu sur le long terme. Donc les fabricants, typiquement, évidemment, investir dans l'outil de production. Aujourd'hui, typiquement, en pompe à chaleur, ce que nous disent les industriels, c'est qu'ils sont plutôt prêts à monter en capacité, qu'ils ont fait des investissements et que les trajectoires de croissance qu'ils avaient prévues ne sont pas forcément réalisées, donc on aurait un petit peu de marge. Après, du côté des artisans, on se dit, voilà, recruter un artisan, ça peut être finalement assez rapide dans un secteur où, en plus, il y a beaucoup d'intérim. Les formations ne sont pas forcément très longues. Néanmoins, si on veut bâtir des entreprises solides avec des compétences solides qui permettent de mener des rénovations de qualité et puis qui aussi ont l'habitude de travailler ensemble, parce qu'il y a un sujet quand même d'avoir plusieurs corps d'État qui interviennent ensemble en rénovation, etc. Ça veut dire aussi bâtir des relations de travail. Et ça, c'est des choses qui se font dans la durée. Et que effectivement, les stop and go qui font que du coup, ces entreprises-là vont peut-être prioriser d'autres chantiers qui ne sont pas forcément de la rénovation énergétique, etc., vont rendre difficile. Et donc, le fait d'avoir des aides qui soient stables et qui peut-être, en tout cas, permettent d'aller aider peut-être ceux qui en ont le plus besoin, comme ça a été, c'est ce qui a été prétexté au moment de la baisse des aides, c'était de se recentrer sur les ménages modestes. Mais en tout cas, il faudrait que ça permette d'accompagner typiquement une politique réglementaire, comme je mentionnais tout à l'heure, gérer les effets de bord de ces politiques-là, hein, parce qu'il y a quand même des perdants. Quand on met une décote brune ou une valeur verte, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et donc, le but, c'est quand même de gérer les effets de bord des perdants qui sont les plus défavorisés, notamment, avec ces aides, et du coup d'avoir un niveau d'aide significatif pour cela et d'avoir pour les autres des mesures réglementaires qui font que tout va fonctionner.
Un grand merci Rémi Babu. Dernière question, très rapidement, l'intérêt pour vous évidemment d'être présent sur ce type d'événement?
Alors moi je suis aussi professionnel, hein, je travaille dans un bureau d'études, donc évidemment je recroise plein de partenaires avec qui je travaille toute l'année.
Et pour le think tank?
Par rapport au think tank, ça me permet de voir un petit peu tout ce qui se passe du côté des produits bas carbone qui sortent sur le marché, de suivre un petit peu, et aussi de croiser un certain nombre de gens qui sont aussi actifs dans le milieu des politiques publiques et qui sont présents, et de prendre la température un petit peu du secteur. Voilà.
Ouais, c'est toujours bien d'avoir une idée un petit peu du poumon, comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci Rémi d'avoir répondu à mes questions. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants, toujours ici, depuis le Grand Palais, pour vous faire vivre cette deuxième journée de la cinquième édition du CIPCA. A tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.